Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
En Côte d'Ivoire, plus aucun poids lourd de l'opposition ne figure pour l'instant sur la liste électorale. Ils sont donc de facto exclus de l'élection présidentielle du mois d'octobre. L'ancien président Laurent Gbagbo est inéligible depuis sa condamnation à 20 ans de prison dans l'affaire dite du braquage de la BCAO, la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Charles Blé Goudé a lui aussi été radié de la liste suite à sa condamnation à 20 ans de prison pour des faits également liés à cette crise de 2010. D'ailleurs, vendredi dernier, un tribunal de Gagnoa a confirmé sa radiation. L'ancien Premier ministre Guillaume Soro est quant à lui sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il a d'ailleurs été condamné à deux reprises par la justice ivoirienne. Et puis, la semaine dernière, cette décision de la justice ivoirienne de radier le leader du PDCI-RDA, Tidjane Thiam, PDCI-RDA, principal parti de l'opposition. Il aurait perdu sa nationalité ivoirienne au moment de s'enrôler sur la liste électorale en 2021. En tout cas, toutes ces figures de la vie politique dénoncent une justice instrumentalisée par le pouvoir. Alors que vous inspire ce climat préélectoral? Je vous rappelle que la présidentielle doit se tenir courant octobre, 25 octobre. Se dirige-t-on vers un scrutin sous tension? On en parle ce matin. RFI vous donne la parole. 33 9 693 693 70 et vos commentaires comme tous les jours sur nos réseaux sociaux. J'en lirai évidemment quelques-uns pour alimenter la réflexion. On va commencer avec vous, Dominique. Bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Vous êtes à Yamoussoukro et vous disiez au Standard être, à l'heure actuelle, très pessimiste lorsque vous pensez justement à cette échéance électorale du mois d'octobre.
Oui, tout à fait, Juan. Comme je le disais au Standard, nous voyons qu'aujourd'hui, le pouvoir RHDP s'est taillé des candidats sur mesure en excluant de la liste tous ceux qui pourraient constituer une entrave à leur jeu politique par des décisions politiques de justice. Alors, nous disons que aujourd'hui, tous ces ingrédients-là vont consister à embraser le climat et la Côte d'Ivoire.
En même temps, vous avez entendu le gouvernement, que ce soit le porte-parole du gouvernement ou même le porte-parole, puisque vous citez directement le RHDP, le parti présidentiel, comme Nkosi Adjoumani qui disait que le pouvoir judiciaire était séparé du pouvoir exécutif, que la justice en Côte d'Ivoire était impartiale.
Oui, c'est ce qu'ils vont dire. C'est des paroles, c'est un leurre. Nous savons pertinemment que rien n'est respecté. Vous-même, vous voyez la décision de justice qui radie M. Thiam. Est-ce que la juge même qui prend cette décision peut? Est-ce qu'elle a compétence? Pourquoi est-ce que c'est une juge qui va se prononcer sur la nationalité d'un citoyen? Oh, normalement, c'est le procureur. Bon, tout est justice. Nous savons que c'est la politique. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous mentir, c'est la politique.
Et donc,
nous n'acceptons pas cela.
Alors, vous n'acceptez pas cela, les personnes concernées et leur parti non plus. Quelle est désormais la marge de manœuvre pour ses opposants?
Comme nous disons, je remercie d'ailleurs le PPACI avec à la tête le président Laurent Gbagbo qui a clairement soutenu le PDCI et qui a dit qu'ils allaient, je pense bien, se mettre ensemble pour les combats à venir.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui...
Laurent Gbagbo qui a même dit prochainement, il n'a pas cité de date, mais qu'il allait prochainement organiser des manifestations, qu'il allait prendre les rues, a-t-il dit. On prendra les rues un jour, mais ce n'est pas quand ton adversaire t'attend dans les rues que tu y vas. Donc il n'annonce aucune date pour l'instant. Mais l'objectif, c'est justement de mobiliser. Vous pensez que l'opposition est en mesure aujourd'hui de mobiliser ses militants?
Oui, monsieur Juan. L'opposition pour mobiliser ses militants. Vous voyez, aujourd'hui, lorsque nous regardons les réseaux sociaux, nous voyons un certain Bob le mannequin qui appelle ses partisans de la favelas, d'après lui, à sortir et à s'opposer aux militants de l'opposition qui vont marcher simplement pour réclamer quelque chose. Et nous disons que c'est eux, à leur niveau, qui veulent détruire ce pays parce que le citoyen a droit de manifester son mécontentement par des marches.
Oui, bien sûr. Personne n'interdit les marches. En tout cas, le gouvernement a dit attention, pas de débordement et pas de violence dans les rues. En tout cas, ce qui est sûr, et les faits sont là pour le démontrer, c'est que la semaine dernière, le PDCI a essayé de mobiliser ses militants pour dénoncer la décision de justice visant Tidjane Thiam. Et disons clairement les choses, il y avait peu de monde. La mobilisation était particulièrement faible, ce qui a poussé d'ailleurs le PDCI à reporter justement cette mobilisation. Dominique, on va passer la parole à d'autres auditeurs. Il y a du monde au standard, comme à chaque fois que nous parlons d'ailleurs de la Côte d'Ivoire. Bonjour Auguste.
Bonjour.
Vous relativisez, vous, un peu les inquiétudes exprimées ici et là par certains auditeurs?
Absolument, c'est pas nouveau, Juan. C'est pas nouveau. Depuis que la Côte d'Ivoire est rentrée dans le multipartisme dans les années 90, on a pratiquement jamais eu d'élections apaisées. Déjà en 90, il y a eu des marches du président Gbagbo contre le président Oufoué, et c'est peut-être juste les élections de 2015 à l'absence du président Gbagbo et avec le soutien du PDCI au président Ouattara qu'on a eu des élections apaisées, mais oui. Sinon c'est pas nouveau tout ça.
Mais est-ce que vous craignez, comme Dominique le disait à l'instant, un scénario à la 2010, une violente crise post-électorale?
Non, pas du tout. Pas du tout, pour deux raisons. D'abord, je pense que les Ivoiriens sont au travail aujourd'hui. Après le bilan, le travail du président Ouattara, tout le monde est occupé, les gens sont occupés. C'est vrai, ils peuvent appeler à des marches, mais comme on l'a dit, ces marches-là doivent être encadrées. Et voilà, et si ce n'est pas encadré, il revient au gouvernement d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Ouais. Et je pense que ça sera fait correctement. Ouais.
Mais il y a un point qui me semble intéressant, Auguste, et vous êtes rejoint là par Théophile qui nous dit sur Facebook, il est prévisible que les opposants vont tenter de mobiliser leurs partisans dans les rues pour réclamer leur inscription sur la liste électorale. Mais Théophile précise, cette démarche échouera, car les Ivoiriens sont lassés des crises politiques à répétition. Et il nous rappelle qu'en 2020, l'opposition n'avait pas réussi à empêcher la tenue des élections.
Oui, absolument. Malgré tout ce qu'ils avaient mis en place, ils avaient coupé les arbres pour barrer les routes, il y avait des manœuvres au niveau des forces de l'ordre, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Les Ivoiriens sont, comme je l'ai dit moi également dans mon commentaire sur votre page, les Ivoiriens sont fatigués des crises. Les Ivoiriens sont fatigués des crises. Et puis surtout, les Ivoiriens sont au travail. Voilà, c'est ce qui est important. Les Ivoiriens sont au travail et ça va être difficile de les amener à faire autre chose.
Les Ivoiriens sont évidemment au travail, mais en même temps, ils s'intéressent de près à la vie politique de leur pays, d'autant qu'il y a une échéance électorale très importante. C'est la présidentielle du mois d'octobre, avec, je le rappelle tout de même, un grand suspense. Le président sortant, Alassane Ouattara, se lancera-t-il dans la course? Pour l'instant, grand mystère. Bonjour Séverin.
Bonjour.
À Abidjan, dans la capitale économique ivoirienne, vous dénoncez des radiations purement politiques.
Oui, ce sont des radiations purement politiques. Moi, je pense que ce sont des radiations politiques parce que quand on prend le cas de Tidiane Thiam, considérant l'article 48 sur lequel ils se sont basés pour le radier, l'article 48 a deux alinéas. Le premier alinéa dit que tout Ivoirien qui a acquis une autre nationalité est immédiatement, perd immédiatement sa nationalité.
Oui.
Mais l'article, le deuxième alinéa dit clairement fixe les conditions d'application de l'alinéa 1. Mmh. Et dans ces conditions, il faut, après 15 ans, quand l'Ivoirien prend la nationalité, l'État ivoirien a 15 ans pour lui faire perdre la nationalité par un décret. Alors donc, Tidiane Thiam, ayant pris la nationalité en 1987, jusqu'en 2002, l'État ivoirien avait la possibilité de lui faire perdre la nationalité ivoirienne.
Et vous êtes en train de nous dire que l'État ivoirien n'a jamais rédigé ce fameux décret?
Non, il n'y a jamais eu de décret dans ce sens, lui faisant perdre la nationalité ivoirienne.
Mmh.
Voilà. Donc, il n'a pas perdu la nationalité. Et maintenant, le même article aussi fixe les procédures pour lui faire perdre la nationalité ivoirienne. Mais quand on le voit, aucune de ces procédures n'a été adoptée. Si je peux donner moi-même mon exemple.
Donc c'est vrai, donc pour vous, il y a clairement une volonté politique de quoi? D'empêcher Tidiane Thiam d'être candidat. Pourquoi? Parce qu'il est, pour certains, le principal concurrent du parti présidentiel?
Oui, il est le principal concurrent du parti présidentiel. Pourquoi? Parce que c'est le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, lui-même, qui a favoriser l'obtention des papiers de l'étudiant, à savoir son passeport et son certificat de nationalité. Maintenant, à son arrivée, il se trouve qu'il bascule de côté de l'opposition. Alors, c'est là maintenant, comment ça c'est déboire.
Ouais. Donc, ce serait une vengeance. Donc, à vous entendre, ce serait une vengeance personnelle du président Alassane Ouattara.
Ça a éclaté. Ils ont fait un sondage sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Au début, comme c'est eux qui ont lancé le sondage, Alors on a constaté qu'au début, c'était Alassane Ouattara qui était devant, mais au fil du temps, quand les autres ont été informés, ils sont allés voter, ils ont vu que Tidiane Thiam était en train de dépasser comment dirais-je,
ouais, bon. Alassane Ouattara. Mais ça reste, attendez, excusez-moi, c'est vrai, ça reste un sondage sur les réseaux sociaux, un sondage, c'est quand même assez scientifique. Un panel bien précis de la société, pour le coup, ivoirienne, catégorie socio-professionnelle, âge, etc. Vous voyez, là, le sondage sur les réseaux sociaux, et rien ne dit que moi, sur je sais pas, Facebook, WhatsApp ou autre réseau social, je puisse voter à plusieurs reprises. Vous voyez, donc, bon, pour prononcer sondage sur les réseaux sociaux avec de grandes pincettes. Je vous coupe la parole, Séverin, il y a du monde au standard, il est déjà 8h50 à Abidjan et en temps universel. Je vous lis quand même quelques réactions pour tous ceux qui nous écrivent, qu'ils ne soient pas frustrés quand même. Je vous cite à l'antenne Alexis nous dit « L'exclusion des leaders de l'opposition est inquiétante pour la stabilité du pays. Quand on affirme qu'on est majoritaire sur l'ensemble du territoire national et qu'on a un bilan inattaquable, on n'exclut pas les poids lourds de l'opposition. Mais le RHDP, nous dit Alexis, a peur de perdre le pouvoir. » Bonjour Charlotte.
Bonjour Juan.
À Abidjan, dans quel état d'esprit êtes-vous à 6 mois de l'élection présidentielle?
Alors, moi je refuse de me faire peur, contrairement à mes prédécesseurs. Je sais que la situation est peut-être préoccupante, mais le Front social ivoirien n'est pas pour autant en ébullition. Et puis aujourd'hui, notre opposition, qu'est-ce qu'elle fait? Quand on prend les différentes réactions, le PDCI qui de son côté exige sans délai la réaction des opposants, Mme Gbagbo et sa coalition, le CAPSI qui semble mener leur barque, Laurent Gbagbo et son PPAC qui lance leur mouvement Trop c'est trop, oui, et promet de durcir le ton très prochainement. Bégoudé pour sa part qui appelle à l'apaisement. On constate que les opposants sont dans une dynamique de réaction disparate. Il n'y a pas de concordance. Et puis, tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, c'est d'activer le fonds social et espérer que les Ivoiriens, devant la cherté de la vie et les problèmes du foncier, et peut-être lassés par 15 ans de pouvoir du RHDP, décident de descendre dans la rue et d'embraser le fonds social. Mais ce scénario, excusez-moi Monsieur Orban, utopique. Car même si on désire aujourd'hui de meilleures conditions, aucun Ivoirien n'est prêt à revivre un remake des 3000 morts de 2010. Et puis surtout, n'oublions pas, le président Ouattara, qui a réussi à faire de la Côte d'Ivoire la première puissance de l'UEMOA, est un adversaire politique averti et surtout très redoutable.
Ouais, première puissance économique de l'UEMOA, certes, mais comme le rappelait, puisque vous le citiez à l'instant, Laurent Gbagbo ce week-end devant ses militants, et d'où le lancement de son mouvement Trop c'est trop, qui a un volet politique, mais également un volet social. Il y a beaucoup de gens qui vivent encore les pieds dans la boue. Ce sont les propos de l'ancien président ivoirien. En tout cas, Charlotte, vous êtes plutôt sereine à vous entendre. C'est
oui,
ça?
Je suis sereine. Je suis très sereine, M. Juan, parce que j'estime que les opposants qui sont en face de M. Ouattara n'ont pas le cran pour le battre. Parce que la méthode qu'ils appliquent n'est pas une méthode idéale pour la société ivoirienne qui sort d'une crise de 2020. On ne peut pas brandir la menace d'une guerre civile,
Charlotte, personne n'a menacé de déclencher une guerre civile en Côte d'Ivoire, soyons précis. Peut-être celui qui a eu les propos, on va dire, les plus véhéments, Laurent Gbagbo, samedi, puisqu'il a clairement dit « on prendra les rues un jour », a-t-il dit, sans préciser de date, je le précise. Charlotte, merci en tout cas, bonne journée à Abidjan, vous êtes nombreux à nous écouter sur les 97.6. On reste justement dans la capitale économique ivoirienne. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Juan.
Charlotte disait à l'instant, la façon dont s'y prennent les opposants n'est pas la bonne pour essayer de remporter la présidentielle. Vous avez une proposition. Vous disiez au standard, l'opposition ivoirienne n'a qu'à s'inspirer de ce que le PASTEF a fait l'année dernière au Sénégal.
Alors oui, ça c'était en réponse à quelle solution il y avait pour une sortie de crise, parce que quand on parle de poids lourd, je veux quand même rappeler que ces poids lourds-là sont dans des appareils politiques. Et on parle des gens qui ont été exclus, radiés, la radiation est récente, mais l'exclusion n'est pas d'aujourd'hui. Pourquoi attendre le dernier moment de lever? Ils savaient qu'ils n'étaient plus sur la liste. Ils auraient pu mener le combat. Et ce combat, qui est un combat face à la justice, ils ne pouvaient trouver qu'une solution politique. Mais on a le courage de poser le problème de façon politique et de demander une solution politique.
Mais la solution politique, excusez-moi Abdoulaye, la solution politique pour Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et Charles Blé Goudé, c'est qu'il y ait une amnistie.
Par exemple, mais il fallait avoir l'humilité de cette démarche. Mais et on n'en serait pas là.
Oui.
On n'en serait pas là. Il faut faire la politique autrement. On ne peut pas prétendre vouloir diriger un pays et vouloir fragiliser en même temps l'une des institutions les plus importantes, qui est la justice. C'est un non-sens. Et il faut qu'on arrête les pratiques d'antan. Les gens sont choqués parce qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'une justice soit indépendante. Ils ne peuvent pas comprendre. Mais je n'ai pas vu un cadre du RHDP se prononcer sur donc la radiation de Thiam qui ait pu avoir des propos qui aient pu influencer cette justice.
Mais Tidiane Thiam, pour l'instant, il ne peut pas briguer la magistrature suprême. Donc vous dites qu'il s'inspire du PASTEF au Sénégal. Il y a bien un plan B, voire peut-être un plan C au sein du PDC-IRDA.
C'est là que je comprends tout et que la peur est plutôt de l'autre côté. Moi, je vois plutôt une fuite en avant. L'insistance sur la révision de la liste électorale prend tout son sens quand on sait que cette liste électorale aurait pu donc occasionner sa réintégration, donc sa candidature. Les choses n'ont pas été faites comme il fallait. Pour moi, l'opposition a un plan B. Le plan B de toute l'opposition, c'est partir vers une transition qui est la seule voie qui leur permettrait d'accéder
partir au pouvoir,
parce que par les
je comprends pas
ils
bien.
N'y arriveraient pas.
Je comprends pas bien. Et en deux mots, soyez bref, il y a encore du monde au standard, Abdoulaye. Partir vers une transition, qu'entendez-vous par là?
Ben, parce que si on révise la liste électorale, on va déraper sur le calendrier électoral. On va se retrouver hors la loi, parce que n'étant plus dans les marches de la Constitution.
Alors,
et à partir de ce moment-là, il faudra poser le débat.
Ouais, permettez-moi de vous rappeler, c'est un auditeur qui me le souligne sur les réseaux sociaux, c'est Eugène, qui me dit, on a bien révisé, je crois que c'est lui qui nous dit ça, j'essaie de retrouver l'affiche, qu'on a bien révisé la liste électorale en 2015, au mois de juin. Donc, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc 4 mois avant la présidentielle de 2015. Donc, vous voyez, c'est possible. Les délais sont encore suffisants pour permettre une telle initiative de réviser la liste électorale. Abdoulaye, bonne journée à Abidjan. Wilfried, ivoirien de la région parisienne, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bonjour, Wilfried. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Ben, comme tous vos précédents, les tout premiers auditeurs, je suis très sceptique pour ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Tant que ces cadres de la politique ivoirienne ne sont pas sur la liste électorale, on aurait l'impression que M. Ouattara préfère avoir des adversaires qui ne font pas le poids afin de mieux défendre son bilan et ses acquis durant ses 3 mandats.
Ouais, vous pensez qu'un Charles Blégoudé, un Laurent Gbagbo, un Guillaume Soro a aujourd'hui un poids électoral suffisamment important pour faire trembler le RHDP?
Guillaume Soro, par exemple, a un électorat suffisamment important dans le Nord quand on sait que quand il a essayé d'implanter son parti dans le Nord, il y a eu des morts. Un Charles Blégoudé a un électorat particulièrement important, mais je ne pense pas que Charles Blégoudé ou Guillaume Soro voudraient vraiment, pourront être élus au soir des élections de cette année. Mais une chose est sûre, un Tidiane Thiam ou un Laurent Gbagbo, je pense que si.
Ouais. Et donc du coup, vous avez l'impression, enfin vous en êtes convaincu d'ailleurs, que le RHDP leur met des bâtons dans les roues?
Bah, ils écartent simplement leurs opposants les plus sérieux, c'est tout.
Et que doit faire par exemple Laurent Gbagbo, tout comme Tidiane Thiam? Gbagbo a lancé un nouveau mouvement samedi, trop c'est trop. Il faut quoi, manifester pour essayer d'obtenir leur réintégration sur les listes ou c'est peine perdue?
Mais une chose est sûre, je pense qu'ils feront tout ce qui est dans leur pouvoir et selon ce que la loi leur attribue, au détriment de ne pas prendre des armes ou monter une rébellion comme certains l'ont fait quand ils étaient dans l'opposition et que voilà, leur nom n'était pas sur la liste électorale ou qu'ils ne pouvaient pas être candidats. Et ces derniers-là n'ont pas eu de plan B, où ils n'ont pas fait le coup, c'est-à-dire de plan B en trouvant un autre candidat.
Ouais, ils ont tenu... au sein du PDCI-RDA, il n'y a pas que Tidiane Thiam, il peut y avoir un plan B. Tout comme au sein du PPACI de Laurent Gbagbo. Il peut y avoir une autre personnalité qui émerge et qui brigue la magistrature suprême au nom de leurs partis respectifs. Le débat était passionnant, il est loin d'être clos. On aura l'occasion évidemment d'en reparler dans les prochaines semaines. Demain, journée spéciale sur RFI, les 100 premiers jours du second mandat de Donald Trump. La stratégie du chaos, 100 jours de Trump, vos questions et votre bilan.
L'appli de Banque Atlantique, Atlantique Mobile, la meilleure expérience de banque à distance, vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Bonjour Caroline Paré.
Bonjour Juan.
Priorité santé, dans 10 minutes, vous nous parlez de l'art-thérapie.
Oui, le dessin, le chant, l'écriture, la danse, quel bénéfice de ces ateliers séances créatives en marge d'une prise en charge médicale pour les maladies chroniques, pour la santé mentale, pour la gestion des émotions, va donner la parole à des spécialistes dans 10 minutes.
Après